Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous à quelques jours des fêtes de fin d'année que je vous souhaite très agréables à tous. Nous sommes donc en pleine période de vacances scolaires, c'est le moment de profiter de son temps libre pour aller visiter les musées et s'intéresser aux expositions qu'ils proposent. Dans la métropole toulousaine, les établissements sont nombreux pour titiller notre curiosité dans divers domaines, notamment en ce qui concerne la culture scientifique, technique et industrielle. Faut-il le rappeler, Toulouse est la métropole de l'aéronautique et de l'espace. Plusieurs équipements témoignent de la désormais longue histoire qui unit la ville rose et ses deux industries de pointe. Il y a le musée Aéroscopia à Blagnac, la cité de l'espace, et depuis quelques années, l'envol des pionniers dans la zone de Montaudran, juste à côté de la halle de la machine. Le lieu est dédié à la formidable aventure des pionniers de l'aéropostale. Et à l'origine de cette aventure qui a lancé l'histoire de l'aéronautique à Toulouse, il y a un homme, un industriel de légende et un innovateur de génie, Pierre-Georges Latécoère. Une exposition lui est consacrée à l'envol des pionniers, ouverte au public depuis quelques jours. Elle a été intitulée « Pierre-Georges Latécoère, l'avenir a des ailes » et elle va être au cœur de cette émission. Décollage immédiat. Pour vous présenter cette très belle exposition à l'envol des pionniers, je reçois Lara Huet, chargée de l'exposition à l'envol des pionniers, et Francis Grasse, adjoint au maire de Toulouse, délégué à la culture, conseiller métropolitain, membre de la commission culture de Toulouse Métropole et véritable passionné de l'histoire de l'aéropostale. Bienvenue aussi à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. C'est un plaisir.
Un plaisir pour moi également.
Merci donc à tous les deux. Alors l'envol des pionniers, c'est un établissement récent. Je vais donc demander à Francis Grasse de nous rappeler la genèse de cet équipement, l'histoire qui s'y raconte et ce que l'on peut y voir et y découvrir de manière permanente avant de parler de l'exposition de la Técoère elle-même.
Alors moi, je vais vous dire deux, trois choses. C'est d'abord la volonté d'origine de créer cet établissement. Vous savez que cette idée, elle est née en 2003-2004, au moment où Air France ferme son usine de Montaudran par Blagnac. Et finalement, c'est la fin d'une activité économique, industrielle, aéronautique sur ce site. Donc, il y avait tout de suite la volonté, Jean-Luc Moudin, qui avait déjà initié un premier projet en 2004, de conserver la mémoire sur le lieu même où les choses sont nées. Ça, c'est la première chose. Il se trouve que ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Et en 2014, lorsque Jean-Luc Moudin est réélu, eh bien, il redéfinit l'objectif, avoir ce lieu de mémoire aéronautique et de le faire avant le centenaire du premier vol, c'est-à-dire avant le 25 décembre 2018, puisque le premier vol a lieu le 25 décembre 1918. Voilà la première idée. La deuxième, c'est que quand nous avons conçu, et j'y ai travaillé pendant finalement 5 ans, avec l'aide de mon collègue aujourd'hui Thierry Santous, nous voulions pas seulement raconter la mémoire, nous ne voulions pas créer un musée, parce qu'un musée c'est statique, nous voulions raconter l'histoire des hommes. Donc c'était recréer la vie, l'ambiance de ces hommes, à la fois des industriels, des pilotes, des mécaniciens, un ensemble de gens. Ça, c'était l'idée principale, alors que les avions, ils sont à Aéroscopia. Donc là, on n'a pas une exposition d'avions. On veut raconter l'histoire des hommes et des femmes. Elles étaient peu nombreuses à l'époque, dans ces métiers-là. Et la troisième idée, qu'on traduit dans le nom « L'envol des pionniers », c'est de montrer que cet esprit pionnier de l'époque, ben, aujourd'hui, Toulouse l'a toujours. Et on n'est pas sur un lieu tourné vers le passé, on est un lieu qui raconte le passé pour préparer le futur. C'est ça l'autre idée. Et au fond, il y a un homme qui matérialise cette idée d'imagination, et on pourra y revenir, parce que son histoire est tout à fait passionnante, c'est Pierre-Georges Latécoère. Alors d'abord, il avait déjà un esprit d'entreprise développé, puisqu'il a repris l'affaire de son père qui est mort alors qu'il avait 22 ou 23 ans, je ne sais plus, au début du siècle. Et il l'a fait évoluer, je pourrais le raconter si vous voulez. Donc il a apporté beaucoup à deux choses. C'est d'abord la création de l'industrie aéronautique, puisque c'est en 1917 qu'il achète 45 hectares autour de Montaudran et autour de la voie ferrée, puisqu'il avait une usine au pont des Demoiselles qui datait de, je crois, 1911, mais qui était dédiée aux wagons. Et puis pendant la guerre, il a fait des munitions. Mais les gens, les Toulousains râlaient parce qu'ils avaient peur des explosions. Donc l'industrie de munitions, c'était plutôt dangereux. Donc il s'est éloigné de Toulouse à l'époque. C'était une zone totalement agricole, maraîchère. à Montaudran est traversée par la ligne de chemin de fer, mais il n'y avait rien. Donc voilà, c'est là qu'il crée l'usine en 1917 pour construire des avions sous licence de Samson. Il a eu une commande de 1000 avions. À la fin de la guerre, il en a construit 600, livré 600. Et puis à la fin de la guerre, il est pilote. Il y a l'industrie aéronautique qui sera en 1917. Mais dès l'année de 1918, il crée la compagnie qui deviendra la compagnie des lignes Latécoère avant l'aéropostale. Parce que ce n'est pas l'histoire de l'aéropostale. C'est l'histoire des lignes Latécoère d'abord, puis de l'aéropostale, puis d'Air France. L'aéropostale étant la période la plus courte de l'histoire. En fait, de 27 en gros à 33. Quoi. Ça ne dure pas très longtemps. Par contre, lui, il crée la compagnie, donc il avait déjà l'idée d'utiliser les avions à titre civil, d'abord pour le courrier, puis éventuellement les passagers. C'était la CEMA, la compagnie des lignes aériennes de l'Espagne, du Maroc et de l'Algérie.
Et oui, parce que c'était l'axe.
C'était l'axe, voilà. Donc de l'Espagne et du Maghreb.
Pour revenir à l'envol des pionniers et l'équipement lui-même, il faut préciser qu'il y a des liens entre Cité de l'Espace et envol des pionniers, au sens où c'est une direction commune, en tout cas pour l'instant.
Enfin, non, ce n'est pas une direction commune, c'est une société commune,
la CMSL, mixte.
Qui a la mission de gérer deux lieux, sachant que c'est la métropole qui définit la politique générale, puisqu'on a cinq lieux de culture scientifique.
Ah oui, c'est bien de les rappeler.
Oui, je les rappelle, parce que la métropole a le muséum d'histoire naturelle, le plus ancien.
Le plus ancien.
On a le suivant qui a été la Cité de l'Espace, il y a 25 ans maintenant. Et puis, on a eu ensuite une trilogie qui ont été les plus récents, Aéroscopia, à Blagnac, le Quai des Savoirs, qui est un établissement généraliste sur l'ensemble des sciences et technologies, et enfin l'Envol des Pionniers, qui est un peu le pendant d'Aéroscopia, si vous voulez. Il y a deux pôles, Aéroscopia et l'Envol des Pionniers.
Voilà, bon, on peut peut-être dire un mot aussi sur ce qu'on appelle la piste des géants, les jardins de la ligne, et puis la synergie qui est avec la halle de la machine, qui est juste à côté.
Oui, parce qu'au fond... Il y a deux éléments fixes dans ce lieu qu'on appelle maintenant la piste des géants. C'est d'abord la piste elle-même, qui n'est pas la piste d'origine, parce qu'au départ, c'était des prairies, comme vous savez. La piste a été bétonnée plus tard. Mais sur ce lieu, on a au bord le château Petit-Espirénal, qui est le lieu qui appartenait à Pierre-Georges Latécoère, parce qu'il avait acheté des propriétés agricoles. Et c'est là qu'on a constitué l'envol des pionniers, dans les lieux historiques. Et donc, autour de ces deux lieux historiques, la piste et le château, on a créé un ensemble plus moderne, parce que d'abord, autour de la piste se construit un quartier dans lequel vous avez des fonctions à la fois culturelles, on vient de les voir, mais des fonctions d'habitat, de commerce et de recherche.
Le B612.
Le B612 et tout l'ensemble, Clermont-Ader, et tout ce qui est dédié au futur de l'aéronautique, de l'espace ou des systèmes, hein, parce qu'on a dépassé l'aéronautique. Donc vous avez un quartier qui se construit. D'ailleurs, on aura les installations du Théâtre du Capitole qui vont se créer à cet endroit aussi. On aura tous les ateliers et les lieux de répétition du Théâtre du Capitole. Et puis on a un cinéma, on a des cafés, des restaurants. Vous avez une activité économique qui va se développer.
Eh bien, merci Francis Grasse pour ce rappel et toutes ces précisions concernant l'envol des pionniers, mais aussi ce qu'il y a autour et ce que l'on peut voir à l'envol, ce lieu dédié à l'histoire des pionniers de l'aéronautique, de l'aéropostale, ces aviateurs et industriels de légende dont Pierre-Georges Latécoère fut une des figures les plus hautes. Dans quelques minutes, nous allons nous plonger dans l'exposition qui lui est consacrée en ce moment. Ce sera après le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu. Nous commençons avec une information qui concerne les automobilistes dont le véhicule est assez ancien. Un pass de 52 jours a été accordé pour rouler sans vignette critère à Toulouse.
Oui, selon France Stratégie, 50 000 véhicules ne pourront plus circuler dans la zone à faible émission de Toulouse à partir du 1er janvier. À cette date, les conditions d'accès à la zone de faible émission vont se durcir pour concerner les véhicules critères 4 et 5 ainsi que les véhicules non classés. Le Conseil métropolitain de Toulouse a décidé d'instaurer un pass permettant de circuler occasionnellement et indépendamment de la vignette critère. Ce pass sera limité à 52 jours par an et s'adressera aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, quel que soit leur lieu de résidence. Il s'agit d'une dérogation provisoire d'une durée de 3 ans. Elle vient en complément des aides déployées depuis 2020 par Toulouse Métropole.
Un autre moyen de transport maintenant, le métro. Sachez qu'en raison des travaux de la ligne C, le parc du Relais de la Vache va être fermé.
Oui, à compter du 1er janvier, à partir de 20h, le parc Relais de la Vache fermera pour permettre le démarrage du chantier de la construction de la ligne C à proximité de la gare ferroviaire et de la ligne B du métro. La future station La Vache intégrera un parking relais de 500 places, une gare de bus, une vélostation de 100 places, 50 places de vélo sur le parvis et une aire de dépose reprise.
Et enfin, nous terminons par une nouvelle qui a ravi tous les mélomanes la semaine dernière. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse a un nouveau chef.
À compter du 1er septembre 2024, Tarmo Peltokoski occupera les fonctions de directeur musical de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse jusqu'en août 2029. Tarmo Peltokoski, 22 ans, succède à Tugan Sokiev. Né en avril 2000 de parents finlandais et philippins, il a déjà dirigé la Kammerphilharmonie de Brême et reçu le prix Lotto au Festival de musique de Rengo. Le processus de réflexion mené depuis 2020 par Toulouse Métropole avec l'orchestre et ses musiciens nous permet de faire ce choix ambitieux et enthousiasmant qui tourne résolument l'orchestre vers l'avenir et confortera encore davantage Toulouse au rang de meilleure formation symphonique, a déclaré Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole.
C'était le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix que je remercie et Francis Grasse, il y a au moins deux informations qui vous concernent de près dans ce flash. Celle concernant les travaux de la ligne C du métro, parce que je rappelle que lorsque vous êtes arrivé à Toulouse, c'était pour suivre les travaux de la ligne A à l'époque. Et puis bien sûr, l'annonce de la nomination de Tarmo Peltokoski à la direction musicale de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Alors ça, c'est une information qui a fait un peu l'effet d'une bombe, non seulement à Toulouse, mais dans tout le milieu musical classique mondial, pourrait-on dire.
Oui, parce que d'abord, depuis plusieurs années, nous travaillons avec les musiciens de l'orchestre à la succession de Tugan Sokiev, et ça ne peut se faire qu'avec une adhésion, bien sûr, des musiciens et la nôtre. Et c'est vrai qu'il y a eu cet été à Saint-Jean-de-Luz une rencontre exceptionnelle entre les musiciens et ce jeune chef d'orchestre, confirmée le 21 octobre à Toulouse. Et depuis, nous avons poursuivi nos discussions et Nous avions envie d'avoir Tarmo, et lui nous a choisi aussi, et donc c'est une excellente nouvelle. Ça démarrera en 2024, comme vous savez. Mais bien sûr, on aura des concerts avec Tarmo dès l'été
d'ici
prochain.
D'ici là, oui, bien sûr.
En tournée, d'ailleurs, à Amsterdam et à Colmar.
Et puis, il va diriger des opéras, en plus, à Toulouse. Alors
oui,
ça, c'est un peu une nouveauté, puisque ce n'était pas le cas de Tugan Sokiev.
Ce n'était pas le cas de Tugan. En tout cas, c'était le souhait de Tarmo Peltokoski. Et nous avons accepté, puisque son contrat prévoit que sur les 5 ans, il dirigera 6 opéras.
Merci pour ces nouvelles précisions. On va revenir maintenant au sujet principal de cette émission, l'exposition Latécoër à l'Envol des Pionniers.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec les invités de ce numéro, Lara Huet, chargée d'exposition à l'Envol des Pionniers, et Francis Grasse, adjoint au maire de Toulouse, délégué à la culture, conseiller métropolitain et membre de la commission culture de Toulouse Métropole. Alors comment elle est née, cette idée de consacrer une grande exposition à Pierre-Georges Latécoër à l'Envol des Pionniers? Est-ce que c'est lié à un événement précis ou est-ce qu'il était nécessaire de rendre enfin hommage au père fondateur de l'aéropostale et même à l'initiateur de la grande histoire de l'aviation à Toulouse en lui dédiant une exposition personnalisée?
Si vous voulez, c'était notre intention depuis le départ. La preuve, nous avons ouvert l'Envol des Pionniers à la date prévue avec la statue de Pierre-Georges Latécoër qui est dans la cour. Et nous avons une création originale de Madène Ténézénas pour montrer qu'on était sous l'aura, quelque part, du créateur du lieu. Alors en fait, on n'avait pas forcément le temps de créer cette exposition pour l'ouverture. Pour la raison suivante, c'est que pour l'ouverture, on voulait mettre l'accent sur l'expo permanente, puisque ce lieu, l'Envol des Pionniers, il y a une partie d'expo permanente, où on raconte l'histoire de ces hommes et de ces femmes. Et puis de l'autre côté, on a un lieu où on fait des expos qui vont tourner. Et donc, nous avons fait des expos qui étaient prêtes. Celle-là, elle nécessitait un travail plus approfondi, notamment avec la Fondation Latécoër, qui nous a beaucoup aidé, et Marie-Vincente Latécoër, avec qui nous discutons depuis 6 ou 7 ans sur cette idée. Donc, ce n'est pas une idée
nouvelle. Qui est la belle-fille, hein, c'est ça, de Pierre-Georges
Latécoër. C'est la belle-fille de Pierre-Georges Latécoër, voilà. Et aujourd'hui, la Fondation est reprise par le petit-fils donc de Marie-Vincente.
Donc, l'arrière-petit-fils.
Donc, l'arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoër. Et la filiation familiale est assuré, lui-même est ingénieur d'ailleurs, il le dit, qu'il est aussi passionné à la fois pour la famille, mais aussi parce qu'il est ingénieur. Et bon, il est plutôt dans le numérique, lui. Alors c'est vrai que moi je réagis aussi comme ingénieur face à ces sujets-là, je ne peux pas me départir de mon métier. Mais donc l'idée principale qu'on avait, c'est à la fois raconter sa vie, mais pas seulement pour la raconter, parce qu'on peut raconter la vie de tout le monde, mais mettre l'accent sur ses talents d'innovateur, parce que dès qu'il a pris l'affaire familiale, alors son père était déjà comme innovateur, parce qu'au départ c'était une scierie, ils exploitaient le bois, puis son père a quand même exploité l'hydroélectricité, il a transformé, il a diversifié pour passer du sciage du bois à la construction de wagons, mais il faisait les caisses des wagons ou des tramways à la fin du 19e. Et Pierre-Georges a découvert pendant ses études à l'école centrale, il a travaillé les métaux, et y compris les métaux non ferreux, parce que l'acier était un peu dominant aussi, notamment l'aluminium. Et il a orienté vers la fabrication complète de wagons, et non plus seulement les caisses. Donc ça, ça a été une transformation. Et très vite, comme il était... Il a fait ses études à Paris, et pendant déjà ses études à l'école centrale, il a noué énormément de contacts avec plein de gens. Et donc à 35 ans, quand il crée cette activité, il a 35 ans, il était jeune quand même. Il était passionné par le dessin industriel. On n'avait pas d'ordinateur à l'époque. Et il était passionné par la conception, au fond. Et très, très vite, il a eu envie de s'impliquer dans une industrie qui était complètement balbutiante. Hein. Les premiers avions, il y avait Breglet, Blériot, tous les Samson, tous les gens, Farman, etc. C'est une industrie complètement neuve.
Il y a le titre de cette exposition, Pierre-Georges Latécoère, l'avenir a des ailes, c'est le fil conducteur de l'esprit de l'exposition, et elle s'ouvre sur un portrait de Pierre-Georges Latécoère, à côté duquel on peut lire une phrase qui est de lui, hein. « J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, le projet est irréalisable, il ne nous reste qu'une chose à faire, le réaliser ». Réussir l'impossible, est-ce que c'était ça le leitmotiv de Latécoère à son époque? Il y avait une part de défi, évidemment, d'aventure, bien sûr. Est-ce que c'est celui que vous souhaitez transmettre aux jeunes générations d'aujourd'hui à travers ce titre « L'avenir a des ailes » ?
Évidemment. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé ce lieu pour transmettre l'état d'esprit de tous ces pionniers, mais aussi de Pierre-Georges Latécoère qui a été l'initiateur. Quand vous regardez dans le monde économique ou industriel, ou même vous remontez à loin, tous les grands innovateurs sont des gens qui sont allés à côté des technologies ambiantes, des idées ambiantes, et ils ont toujours surmonté des défis qu'on considérait comme impossibles. Vous pouvez trouver des tas d'exemples. Et lui, c'est son cas. Alors, comme avec Lara, on est des ingénieurs, les ingénieurs, ils sont là pour calculer, pour vérifier, parce qu'il faut assurer une sécurité, vous construisez un pont, vous n'avez pas envie qu'il s'écroule. Ça, c'est le calcul, et on s'aperçoit que quand on veut franchir une nouvelle étape, il faut transgresser quelque part.
Il y a un moment, il y a une prise de risque.
Il y a une sorte de prise de risque, il y a quelque chose de fortuit. Vous pouvez voir ça en biologie, vous pouvez voir ça en médecine, vous pouvez voir ça dans l'industrie classique. À chaque fois, il faut imaginer quelque chose qui est impossible. Donc cette phrase, on la retrouve souvent chez les grands innovateurs dans l'histoire du monde.
Et donc c'est conserver cet esprit innovateur et ce côté un peu prise de risque face aux défis industriels de notre temps, notamment ceux qu'implique maintenant la crise énergétique.
Mais l'énergie, elle a toujours été au cœur de l'aventure industrielle. Au 19e siècle, c'est l'énergie qui fait avancer l'industrie. Au 20e siècle...
C'est pour ça que ça a toujours été un enjeu aussi politique.
Ça a toujours été un enjeu à la fois politique, économique, stratégique. Le 20e siècle, il est dominé par le pétrole. Et puis, on a mis longtemps à prendre conscience que finalement, avec le charbon puis le pétrole, on déséquilibrait la vie, finalement.
L'environnement.
Et l'environnement. Aujourd'hui, je crois que la prise de conscience est faite. Et le grand défi aujourd'hui, c'est comment on passe d'un monde qui était dépendant, finalement, des énergies carbonées à un monde qui peut vivre sans, autrement. Et c'est tous les enjeux de la production de l'énergie, bien sûr. C'est l'enjeu de la consommation de l'énergie. Et pour ce qui nous concerne, puisque là on parle d'aérien, c'est l'enjeu d'une aviation auquel on croit, mais qui doit se décarboner. Alors, un avion, ce n'est pas une voiture. Dans une voiture, vous mettez une batterie, vous pouvez passer à l'électrique, avec tout un tas de questions que ça pose, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Il y en a d'autres. Oui.
Mais ça pose d'autres questions complexes. Ben, l'avion, il a le problème du poids aussi, donc il faut imaginer des technologies. Aujourd'hui, elles ne sont pas forcément opérationnelles, mais aujourd'hui, les industriels... mais aussi des start-up. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les grands industriels investissent tous sur les motorisations du futur. Ce n'est pas tellement l'avion que la motorisation. Mais on a aussi, à Toulouse, des sociétés émergentes. Et c'est ça aussi qu'on veut valoriser. C'est un tissu économique et industriel qui n'est pas que les grandes entreprises, mais aussi toutes les autres. Et certaines d'entre elles nous apporteront peut-être des idées nouvelles. Et elles testent déjà des solutions nouvelles. C'est pour ça qu'on montre aussi en l'expo.
Ouais, c'est pour ça que l'esprit de Pierre-Georges Latécoère nous parle encore aujourd'hui.
Oui, la Rahuée. Exactement. J'ajouterais aussi que dans cette exposition, on ne fait pas que raconter l'histoire et les grands moments de la vie de Pierre-Georges Latécoère. On a aussi tout un côté sur les enjeux de l'aéronautique aujourd'hui. Et ces deux parcours ne sont pas complètement indépendants, puisque c'est Pierre-Georges Latécoère qui revient du passé pour parler aux visiteurs et l'aider à monter un projet aéronautique innovant en s'entourant d'une bonne équipe, en optimisant sa ligne, en construisant son aéronef, justement comme le font certaines entreprises qui sont mises à l'honneur dans l'exposition.
Eh bien, on en vient à la conception de cette exposition, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vous maintenant, la Rahuée. Qu'est-ce qu'elle propose aux visiteurs? Quel parcours lui est proposé? Et quels objets on y rencontre? Alors parfois, certains, on s'attend à trouver les objets en question, et puis d'autres sont peut-être un peu plus insolites.
Donc, comme je le disais, on a deux parcours, mais pas complètement indépendants l'un de l'autre. Le premier qui va retracer les grandes étapes qui ont marqué l'œuvre de Pierre-Georges Latécoère, et un second parcours plutôt orienté sur le présent, les enjeux de l'aéronautique aujourd'hui. Et l'exposition se termine avec une rencontre avec Pierre-Georges Latécoère dans son bureau, où Pierre-Georges Latécoère conclut le jeu qui est proposé aux visiteurs. Et on y trouve dans son bureau sa map monde. Sa map monde sur laquelle il a probablement imaginé sa ligne et avec laquelle il a travaillé. Et c'est un objet très émouvant.
Il a dû beaucoup rêver aussi en regardant cette map monde à ce qu'il pouvait effectivement concevoir pour aller dans les pays qu'on pouvait y voir. Et vous vous disiez, on rencontre Pierre-Georges Latécoère, expliquez-nous comment, parce qu'évidemment, il n'est pas là devant nous en chair et en os. C'est un comédien, alors qui n'est pas sur place, mais qu'on voit sur des écrans.
Tout à fait, on a un comédien qui joue le rôle de Pierre-Georges Latécoère. Alors, pour information, il faut savoir que tout ça a été fait en collaboration avec Pierre Elzéar Latécoère, qui nous
l'arrière-petit-fils, donc président de la Fondation Latécoère aujourd'hui.
Et du coup, effectivement, on a une image d'archive derrière le bureau de Pierre-Georges Latécoère qui, d'un coup, s'anime et le comédien prend la place de l'image et change d'écran et s'adresse directement ensuite aux visiteurs.
Alors, le jeu qui est proposé aux visiteurs, c'est quoi exactement? De concevoir un avion? C'est un peu ça?
Alors, le jeu propose de monter un projet aéro innovant dans sa globalité. Donc, on commence par l'équipe. On commence par s'entourer des bonnes personnes. Puis on a un second temps où on va choisir sa ligne en fonction de l'aéronef qu'on a choisi. Parce que si on choisit l'avion régional ou le drone taxi ou l'hydravion, on n'a pas forcément les mêmes trajets possibles. On optimise sa trajectoire. Et enfin, on construit son aéronef décarboné. Donc on peut regarder quelles énergies choisir. Donc est-ce qu'on prend l'hydrogène, l'électricité, le biocarburant, etc. Une autre étape consiste à visualiser son aéronef dans le ciel avec ceux des visiteurs et de voir quels ont été les choix des visiteurs. Est-ce qu'ils sont plutôt partis sur de l'électricité, des biocarburants, etc. Et puis enfin, on a la rencontre avec Pierre-Georges Latécoère dans son bureau pour conclure et pour parler aussi de l'esprit pionnier et de la persévérance dont il a su faire preuve.
Avec un comédien qui lui ressemble de façon troublante.
Oui, après, on peut reproduire au plus proche sa physionomie, mais par contre, c'est les prodiges du numérique qui permettent ça, bien sûr.
Oui. Parce que c'est l'innovation qui est derrière.
Mais ce qu'il y a derrière ça, il y a l'idée d'avoir une expo interactive, toujours. Hein. C'est un principe que nous essayons d'appliquer dans un maximum, immersive et interactive, de telle sorte qu'on rend visiteur-acteur. Et là, on a envie que chaque visiteur se sente une âme de pionnier. Quoi.
Et c'est vraiment ouvert pionnier, à partir de quel âge on peut y aller, pour ceux qui vont y aller en famille?
C'est sûr que ce n'est pas forcément pour les tout petits-enfants.
Peut dire à partir de 12 ans pour
l'école
le jeu.
Primaire, voilà. À partir du primaire, vous commencez à avoir un éveil.
Voire 8, 9 ans.
Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'expo permanente aussi, où on peut montrer les choses.
Bien sûr.
On a aussi des documents.
Je parlais d'objets. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a un Samson, hein, l'avion en entier. Puis, il y a beaucoup d'objets, beaucoup de photos, des documentaires d'époque. On voit un documentaire avec Pierre-Georges Latécoère.
Au pied du Samson, voilà. À côté justement de la maquette du Samson dont vous parliez. On a aussi des témoignages de ceux qui l'ont accompagné dans son aventure. On a des témoignages audio de Beppo de Massimi, vidéo de Marcel Moine, Didier Dora. Oui.
Donc des industriels ou des aviateurs.
Des gens comme Marcel Moine, ça a été des parterres de l'aventure dès le départ. Hein. Beppo de Massimi, bien sûr, c'était son associé. C'est des gens qui ont vécu l'aventure avec lui, quoi.
Et qu'est-ce qu'on apprend sur Pierre-Georges
Didier Dora, ça a été l'exploitant après, hein, qui a développé la ligne.
Qu'est-ce qu'on apprend sur Pierre-Georges Latécoère lui-même, l'homme et son caractère dans cette exposition, au-delà de l'aspect effectivement homme capable de prendre des risques, homme visionnaire. Moi, ce qui m'a frappé, hein, je le dis en tant que visiteur, c'est l'élégance du bonhomme et le côté esthète qu'on sent beaucoup et qu'on voit aussi dans certains objets. À l'époque, ce qu'on mettait dans les avions, les fauteuils par exemple, on voit qu'on était dans les années 20-30 où il y avait toute cette période des arts déco, Robert Mallet-Stevens en architecture.
Je ne sais pas si vous savez, mais Pierre-Georges Latécoère, pendant ses études, il est parti assez tôt parce qu'il a passé son bac à Paris, au lycée Louis-le-Grand, et ensuite il a préparé l'école centrale. Mais pendant ses études, c'était un grand fanat de culture, d'art. Il était extrêmement présent dans le monde artistique parisien. Il était vraiment impliqué et donc il a sûrement gardé ce côté d'esthète, mais c'était à la fois un ingénieur, un esthète, un concepteur finalement et un stratège, quoi. Mais parce qu'il fallait quand même imaginer avant que ça soit imaginable de faire des lignes qui allaient si loin.
Quelque chose que je trouve frappant aussi, c'est l'esthétisme de l'intérieur des avions. On a dans l'exposition une photo du Laté-28 avec les sièges en osier dont vous parlez, mais aussi ce papier peint avec un motif fleuri. C'est très différent de ce qu'on connaît. On a également les hydravions. Pierre-Georges Latécoère, à la fin de sa vie, a travaillé sur des hydravions. Et l'intérieur de ces paquebots déserts est somptueux. On présente dans l'exposition un médaillon.
Beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque.
À l'époque, il a conçu une cinquantaine d'avions dans l'épopée industrielle.
Des types d'avions, puisque
les derniers, c'était des espèces de monstres qui
volaient. On voit des
documents
d'époque, justement.
Les avions comme le AT-300 ou le
films d'époque, des hydravions.
Le dernier, c'est le 631. Et en fait, on imaginait à l'époque que l'hydraviation, c'était le futur de l'aviation pour le transport de passagers, parce qu'on pensait que c'était plus robuste que des avions, puisqu'ils pouvaient se poser
sur l'eau plutôt que sur...
D'ailleurs, il faut remercier le musée de l'hydraviation à Biscarrosse, qui a été partenaire de cette exposition, puisqu'à l'époque, effectivement, on imaginait que l'eau était un des moyens simples et accessibles pour construire des pistes. C'était compliqué. L'eau, il y avait les ports, il y avait les bords de...
Il y avait les grands lacs des Landes. Il y avait les grands lacs des Landes.
Les lacs, bien sûr, mais ça apparaissait comme un moyen simple. Ça apparaissait sûr, parce qu'il fallait traverser l'Atlantique, donc ça sécurisait les gens. Mais Mermoz disait que ce n'était pas forcément la meilleure idée, mais bon, mais c'était la tendance de l'époque.
Oui, il y a des photos de Mermoz, d'ailleurs, qu'on voit tout au long de cette exposition magnifique. Il y a autre chose de très touchant, j'ai trouvé, c'est qu'on voit les exemplaires de Courrier Sud et Vol de nuit de Saint-Exupéry, dédicacés par l'auteur à Pierre-Georges Latécoère, et on y voit toute l'admiration qu'il avait pour cet homme.
Tout à fait, parce qu'il a été, Saint-Exupéry était son employé,
Oui.
Et après, il a raconté beaucoup l'histoire, et c'est vrai qu'il rendait hommage, on le voit dans ses dédicaces à Pierre-Georges Latécoère.
Voilà, on va pas tout dire, on va laisser évidemment quelques petites choses en suspens. Il faut y aller pour découvrir cette exposition. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Lara Huet et Francis Grasse, d'en avoir été les invités et de nous avoir présenté la très belle et passionnante exposition Pierre-Georges Latécoère, L'avenir a des ailes, à voir à l'envol des pionniers. C'est en ce moment et c'est pour 2 ans.
Pour 2 ans, jusqu'en 2024.
Jusqu'en 2024.
Il y a une programmation spéciale qui est prévue pour les vacances de Noël, pendant lesquelles l'envol est ouvert tous les jours, sauf les dimanches et lundis, à retrouver sur le site internet.
Eh bien voilà, vous avez tout dit. J'invite nos auditeurs à se renseigner plus précisément sur les jours et horaires d'ouverture de l'établissement en consultant le site www.l'envol-des-pionniers.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri. À la technique, Francky Guéret. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émissions. D'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes en famille et entre amis.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.